Au 11e jour de la mobilisation des surveillants pénitentiaires, la chancellerie revoit ses propositions à la hausse. Les syndicats les trouvent toujours insuffisantes. Les vœux d'Emmanuel Macron aux agriculteurs, il promet une réunion avec les distributeurs et les industriels pour discuter des négociations commerciales et il menace de dénoncer les mauvaises pratiques. Madrid demande à la justice de bloquer la candidature de Carles Puigdemont à la présidence de l'exécutif catalan. L'indépendantiste fait toujours l'objet d'un mandat d'arrêt. Enfin, la Banque Centrale Européenne réagit à l'envolée de l'euro après les déclarations du secrétaire américain au Trésor soutenant un dollar faible. Mario Draghi rappelle les engagements multilatéraux à ne pas influencer le cours d'échange. Le dialogue reste difficile entre Nicole Belloubet et les gardiens de prison. Au 11e jour du mouvement de protestation lancé après l'agression de surveillants par un détenu radicalisé, la ministre de la Justice a reçu à nouveau les responsables syndicaux pour leur présenter un projet d'accord. Le syndicat majoritaire, UFAPUNSA, salue des avancées, notamment en matière de sécurité, mais FO et la CGT se disent une nouvelle fois déçus, Mélanie Juvé.
Effectivement, le volet sécuritaire a été étoffé par le gouvernement. La ministre propose entre autres de créer 1500 places dans des quartiers étanches pour détenus radicalisés, l'autorisation de menotter ces détenus ainsi que ceux dits violents lors de leur déplacement. Mais Force ouvrière et la CGT refusent tout accord, la CGT qui vient de le refuser à l'instant, tant que le passage de la catégorie C à B du service public n'est pas abordé. Cela permettrait une revalorisation du salaire. Emmanuel Baudin, secrétaire général Force ouvrière.
Je pense que le métier va être plus attractif, c'est-à-dire qu'on va attirer, donc le concours, ça sera un recrutement niveau bac. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, on va attirer aussi plus de monde, je pense, si on a des salaires plus hauts. Hein. Et plus on a de personnel, plus on est en sécurité dans les établissements. 80 millions, c'est le coût de la catégorie B. On est prêt à faire l'impasse sur de l'indemnitaire pour pouvoir l'obtenir, cette catégorie B. Donc, on est vraiment dans la négociation. Ouais. Donc, voilà.
Le gouvernement pense au contraire que ce changement de catégorie fermerait la porte à de potentiels candidats. Youssef Badr, porte-parole du ministère de la Justice.
Aujourd'hui, la difficulté de passer un surveillant, par exemple de la catégorie C à la catégorie B, c'est que ça empêcherait de facto quelqu'un qui ne serait pas bachelier d'être surveillant pénitentiaire. Donc il y a aussi un certain nombre de dispositions où si on passait de la catégorie C à la catégorie B, empêcherait également ou fermerait la porte à un certain nombre de personnes pour préparer le concours aujourd'hui.
Ce projet d'accord est étudié en ce moment par les bases syndicales. Reste à savoir comment évoluera le mouvement de blocage des prisons si seul un syndicat sur trois le signe.
Mélanie Juvé. Deuxième jour du procès de celui qu'on a appelé le logeur de Daesh au tribunal correctionnel de Paris. Après les attentats du 13 novembre 2015, Jawad Ben Daoud avait hébergé deux terroristes survivants, mais il a toujours affirmé qu'il n'était pas au courant de leurs activités. Cet après-midi, la présidente du tribunal a interrogé Jawad Ben Daoud ainsi que son complice Mohamed Souma. Florence Turm, vous avez suivi l'audience.
Son avocat a beau lui faire signe à travers les vitres du box, il ne parvient pas à stopper le flot de paroles ininterrompu de Jawad Ben Daoud. Veste de survêtement rouge à l'effigie du Paris Saint-Germain, cheveux noirs gominés ramassés en catogan. Son récit devient de plus en plus rapide, de plus en plus difficile à suivre, malgré les questions de la présidente qui tente très calmement de recadrer le prévenu. Ça fait 27 mois que je suis à l'isolement, répète Jawad Ben Daoud. La première fois que je vois vraiment les attentats du Bataclan et des terrasses, c'est dans ma cellule à la télé. Isabelle Prévost-Després s'en étonne. Le prévenu reprend encore plus vite. Oui, je suis passée chez mon père le 13 novembre. Il mangeait des lentilles au bœuf en regardant la télé. Et mon père, il m'a dit, ils sont tous morts. Monsieur Ben Daoud, on va régler les choses tout de suite. Ici, c'est pas BFM, c'est le tribunal. Mais dans la salle d'audience, ce sont bien les images du logeur devenu risé des réseaux sociaux qui ressurgissent. Jawad Ben Daoud s'agite, s'emporte, s'excuse vaguement. Je ne veux pas vous manquer de respect, madame le juge, mais vous pensez quoi? Que Mohamed Souma est arrivé en disant « il faut loger des terroristes », que j'ai fixé un prix, allez, 150 euros, et bonne soirée les mecs. Il s'agite encore, retire sa veste pour dévoiler un t-shirt rouge fleuri. Moi, on me prend pour un abruti fini, on essaie de me faire passer pour une auberge espagnole, mais je suis là pour dire la vérité, ajoute Jawad Ben Daoud. Il y a eu 130 morts dans cette affaire, c'est pas un vol de sac à main.
Florence Turman, direct du Palais de Justice de Paris. Autre procès, cette fois au tribunal de grande instance de Paris, où comparaissent Le Point, l'Obs et Mediapart, avec les ONG React et Sherpa. La holding luxembourgeoise Socfin les accuse de diffamation. Socfin qui est très liée à Bolloré. Or, ce groupe recourt facilement à la justice quand on s'intéresse de près à ses affaires. Ilan Malka, vous avez suivi l'audition d'Edoui Plenel, directeur de Mediapart.
Oui, l'article de Mediapart qui est attaqué date de 2015. On peut y lire que 6000 paysans camerounais affirment affirment que leurs terres ont été accaparées par la SOCFIN et ont ainsi vu disparaître 40 000 hectares. La SOCFIN, détenue à 40% par Bolloré, conteste cette version des faits. Elle affirme que les expropriations en question ont été réalisées dans les années 70, bien avant son arrivée au Cameroun. C'est la raison pour laquelle elle attaque aujourd'hui en diffamation. À la barre, Edoui Plenel affirme que Mediapart n'a fait que relayer une parole, celle de ses paysans. Nous sommes au cœur du droit de la presse, affirme-t-il. Selon lui, nous sommes face à une procédure bâillon qui vise à faire taire et à intimider. Ce qui nous est reproché, dit-il, est simplement d'avoir fait état d'une contestation de propriétaires terriens, comme nous faisons régulièrement état de ce que disent des partis politiques, syndicats ou associations. Il remarque que l'attaque en justice ne porte que sur les propos rapportés des paysans, pas sur ce qu'a écrit Mediapart. Le président du tribunal l'interroge alors ainsi. Les parties civiles affirment que vous avez retranscrit ces accusations sans avoir enquêté plus avant. Le fondateur de Mediapart répond que d'une part le contradictoire a été respecté et que d'autre part la mission du journalisme est aussi de répercuter le bouillonnement de la société. Faire état de ce que disent les gens est autorisé, affirme Edoui Plenel. Il prend à cet égard l'exemple de MeToo, autre mouvement de parole qui a été largement relayé dans la presse. Aller contre cela est selon lui aller contre la liberté du journalisme. Le procès se déroule encore demain pour une deuxième journée de débat.
Ilan Malka, de retour. Excusez-moi. La Cour européenne des droits de l'homme juge conforme l'arrêt des traitements d'Inès, 14 ans, en état végétatif depuis juin 2017. Les parents de l'adolescente avaient saisi la CEDH parce qu'ils s'opposaient aux médecins de l'hôpital de Nancy qui avaient lancé une procédure d'arrêt des traitements. Bonsoir Camille Magnard.
Bonsoir Aurélie.
Leur requête est jugée irrecevable.
Oui, et c'était pourtant le dernier recours pour les parents d'Inès. La Cour européenne des droits de l'homme donne donc implicitement raison aux médecins qui, par une procédure respectueuse, disent-ils, du droit français, la loi Leonetti, et du droit européen, ont décidé que les soins médicaux constituaient une obstination déraisonnable dans le cas d'Inès. Car cette décision le confirme, la décision de la CEDH, ce sont bien eux, les médecins, qui décident en dernier recours et non pas les parents, représentés par maître Frédéric Bernard.
Toutes les justices, et donc même maintenant la justice européenne, c'est-à-dire le plus haut niveau que nous puissions atteindre, nous, considèrent qu'il est possible qu'un mineur de 14 ans qui exprime sa position par le biais de ses représentants légaux puisse être débranché alors que ce qu'il exprime sur le plan juridique par le biais de ses représentants légaux, c'est l'opposition à cet arrêt des soins.
Alors cette interprétation du droit selon laquelle Inès, comme elle est mineure, exprimerait sa volonté par la voix de ses parents, n'a pas convaincu les juridictions, le Conseil d'État d'abord, puis désormais la CEDH. La décision de cette dernière est définitive. Elle ne veut pas dire pour autant que l'arrêt des soins qui maintiennent Inès en vie doit obligatoirement être appliqué, mais qu'il n'y a plus d'obstacle juridique, maître Bernard.
Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, il va falloir prendre la décision appliquant la décision des médecins validée par toutes les instances de mettre un terme à la vie d'Inès. On plonge dans une très grande incertitude, dans un dossier qui reste toujours très très douloureux à gérer.
Et selon leur avocat, les parents d'Inès se réservent à la possibilité de poursuite pénale contre le médecin qui mettrait en œuvre donc cet arrêt des soins. Il faut dire que les décisions successives du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme exonèrent le médecin qui pratiquerait cette fin de vie de toute responsabilité pénale en cas de poursuite pour homicide ou même assassinat.
Merci pour ces explications, Camille Magnard. De retour de Davos, Emmanuel Macron s'adresse à la France rurale. Le chef de l'État a été reçu à déjeuner dans une ferme fromagère du Puy-de-Dôme avant de présenter ses vœux au monde agricole à Saint-Genès-Champanelle, à une quinzaine de kilomètres de Clermont-Ferrand. Le président reconnaît les difficultés des agriculteurs et l'impact de la mondialisation sur le modèle français agricole. Bonsoir Anne-Laure Chouin.
Bonsoir Aurélie.
Emmanuel Macron promet de les accompagner en précisant la ligne ébauchée lors des états généraux de l'alimentation.
Oui, le chef de l'État a résumé une nouvelle fois sa politique agricole en trois mots. Cette fois, un combat pour la valeur, pour l'ouverture et pour la planète. Concernant la valeur, un projet de loi sera soumis en Conseil des ministres dès la semaine prochaine, conformément à la promesse faite lors des états généraux. Le tout sera ensuite décliné en partie via des ordonnances. Une loi très attendue par les filières qui ont le plus souffert de la crise, car elle concerne notamment la construction du prix des aliments d'origine française, à un prix qui sera désormais fixé à partir du coût de production. N'en déplaise aux distributeurs qui sont en train en ce moment même de négocier les contrats d'achat pour l'année à venir. Ces négociations se passent mal. national. Le chef de l'État en a fait mention et il a assorti ses vœux d'une menace aux distributeurs. Je sais que l'un d'entre eux continue de vouloir tirer les prix vers le bas. Si la semaine prochaine, ce distributeur-là, rejoint par d'autres, ne fait pas un effort, alors les Français devront savoir qui il est. Réorganiser les filières, créer des organisations de producteurs, définir des stratégies différenciées. Le président de la République a répété ses engagements pris à la fin de l'année dernière. Mais il a également évoqué ce qu'il n'avait pas fait à l'époque, la question des accords de commerce internationaux. Pour le CETA, c'est trop tard, a-t-il indiqué en substance. Mais pour l'accord futur avec le Mercosur, qui devrait faire rentrer sur le sol européen des tonnes de bovins sud-américains, nous veillerons à faire respecter nos lignes rouges. On ne peut pas accepter de vendre en France des produits issus d'un modèle social et environnemental qui n'est pas le nôtre, a-t-il promis. Il devrait parler du sujet dès demain soir avec le président argentin en visite en France.
Anne-Laure Chouin. Le président américain Donald Trump est arrivé à Davos. Il s'exprimera demain à la tribune du Forum économique mondial. Pour l'instant, ce sont les déclarations intempestives de son secrétaire au Trésor qui mettent en émoi les marchés. Stephen Mnuchin a dit tout le bien qu'il pensait d'un dollar faible. Le président de la Banque centrale européenne a réagi aujourd'hui. Mario Draghi prévient que la hausse de l'euro est une source d'incertitude et que de telles déclarations pourraient conduire la BCE à revoir sa stratégie si elles se traduisent par un changement des conditions monétaires. Écoutez ce qu'en dit Alexandre Baradez, analyste chez IG Market.
Il y a un accord entre les grandes puissances qui est de ne pas communiquer sur le niveau de sa devise pour ne pas influencer les cours de change et pour ne pas créer un avantage compétitif. Vous voyez, vous avez une des personnes les plus importantes de l'administration qui est le secrétaire au Trésor qui dit le dollar faible, c'est bon pour les échanges commerciaux, c'est bon pour les États-Unis. Et ça, Draghi, sans citer l'administration, mais le dit très clairement, donc on a tous compris ce qu'il voulait dire, il dit la hausse de l'euro est en partie aussi due à ces commentaires un peu intempestifs et non conformes aux règles en vigueur. Et le problème d'un euro qui monte trop vite, vous vous rendez compte qu'on était il y a quelques mois à 1,03, on est maintenant à 1,25 au moment où on se parle, donc ça fait une hausse de quasiment 20% de l'euro en quelques mois. Évidemment, dans une phase de reprise économique, ça va un peu quand l'euro suit la reprise économique, mais si l'euro grimpe beaucoup plus vite que le niveau de performance économique de la zone, là ça pose un problème, parce que la BCE n'atteint pas ses objectifs et parce que ça pose un problème sur la compétitivité de la zone, notamment pour la partie export, donc ça devient ensuite un vrai problème économique.
Alexandre Baradez répondait à Marie Vienno. L'ancien président de Catalogne, l'indépendantiste Carles Puigdemont, va-t-il pouvoir être investi pour un nouveau mandat ? Le président, destitué et en exil à Bruxelles pour éviter l'action de la justice espagnole, a été nommé candidat à l'investiture par le président du Parlement catalan. Mais le gouvernement espagnol veut déposer un recours contre cette candidature. Les explications de Mathieu de Taillac à Madrid.
Jusque-là, on se demandait quelle forme pourrait prendre l'investiture d'un candidat qui habite à 1200 km du Parlement catalan. Carles Puigdemont allait-il déléguer la lecture de son programme de gouvernement à un autre député ? Allait-il le prononcer par visioconférence ? Ou allait-il enfin apparaître par surprise à la Chambre, malgré le mandat d'arrêt émis contre lui en Espagne ? Dorénavant, on se demande si l'investiture aura bien lieu, car le gouvernement espagnol compte saisir la Cour constitutionnelle pour annuler la décision de nommer Puigdemont candidat. Madrid considère que le Parlement ne pouvait pas proposer la candidature de Puigdemont, car celui-ci est privé de sa liberté de mouvement. S'il vient en Espagne, il sera arrêté avant d'arriver à la Chambre. Si les jours prochains, la Cour constitutionnelle accepte de se saisir de l'affaire, alors la nomination de Puigdemont comme candidat sera automatiquement suspendue. Le président du Parlement catalan aura alors deux options. Soit il obéit à la Cour constitutionnelle et renonce à organiser la session d'investiture de Puigdemont, soit il se rebelle, la séance a bien lieu, il devra alors faire face à des poursuites judiciaires. Parmi les indépendantistes, les partisans jusqu'au boutiste de Puigdemont s'opposent aux pragmatiques qui aimeraient bien saisir l'occasion de tourner la page Puigdemont, présenter un candidat alternatif et ouvrir un chapitre de dissension.
Des salles de cinéma gardées par des policiers en tenue anti-émeute. Le film Padmaavat, objet de la fureur de groupes radicaux hindous, est sorti aujourd'hui en Inde dans une ambiance de chaos. Superproduction bollywoodienne, Padmaavat raconte la vie de l'une des reines mythiques les plus vénérées de la caste des guerriers Rajput, mais les groupes extrémistes de cette communauté manifestent depuis des mois pour interdire sa sortie. Les violences se sont répandues hier dans plusieurs états du nord de l'Inde, entraînant l'incendie de bus et le saccage de cinéma, ce qui inquiète énormément l'industrie du cinéma de Bollywood. La correspondance de Sébastien Farsi en Inde.
Ce mercredi à Gurgaon, la cité d'affaires de New Delhi, un bus scolaire est caillassé. Les enfants terrorisés se réfugient sous les sièges. Dehors, c'est un climat de révolte urbaine. Comme dans plusieurs états du nord de l'Inde, des centaines de jeunes enragés brûlent les voitures ou saccagent les cinémas afin d'empêcher la diffusion du film Padmavat. Ils répondent à l'appel d'un groupe radical de la caste des Rajputs. Celui-ci affirme que Bollywood est en train de souiller la mémoire de l'une de leurs reines mythiques du XIVe siècle. L'histoire est tirée d'une fable. Quasiment personne n'a encore vu le film, mais qu'importe, c'est l'honneur de cette communauté guerrière qui serait en jeu. Selon Gaurav Bose, producteur de films à Bombay, ce rare niveau de violence est très préoccupant.
Les gens n'acceptent plus qu'on leur parle de leur histoire si on ne fait pas partie de leur communauté. Ce n'est même plus un problème de contenu, c'est simplement qu'ils s'arrogent le monopole de ce récit. Et en tant que réalisateur de films, c'est une situation très délicate, car en Inde, nous avons 50 religions, 50 groupes politiques et sociaux, avec 50 versions différentes de leur histoire. Et il est donc très difficile de ne pas vexer l'un d'entre eux.
Les propriétaires de salles de 4 états indiens ont déjà cédé à la menace et refusé de diffuser Padmavat par peur de subir de nouvelles violences.
2018, l'année franco-russe des langues et littératures. Le lancement officiel de cette année se déroulera en mars au salon Livre Paris, dont la Russie est l'invitée d'honneur. Mais Fanny Ardant, marraine de l'événement, s'est rendue dès cette semaine à Moscou pour rencontrer la presse russe. Parmi les temps forts à venir, la venue d'une quarantaine d'écrivains français en Russie, à un moment où, parallèlement aux échanges littéraires, l'enseignement du français en Russie semble se renforcer. Le reportage de Claude Bruyot à Moscou.
Bonjour, asseyez-vous. De quoi est-ce qu'on va parler à la leçon de civilisation française aujourd'hui? Alors, Sacha, dis-moi s'il te plaît, la France est située où?
La France est située en Europe.
En Europe.
Nous sommes dans la classe de 5e de Tamara Kocharyena, au cœur de l'école 1231, dans le quartier de l'Arbat, à Moscou. L'établissement accueille 600 élèves russes, pour la plupart, des niveaux primaires et collèges. Parmi eux, 400 ont choisi volontairement cette école, avec leurs parents, pour apprendre le français, à raison de 5 heures par semaine en 5e, par exemple, et par groupe resserré de seulement 10 élèves. Tamara Kocharyena, prof de français, est aussi vice-directrice de l'établissement.
Vous savez, ce sont les élèves motivés, parce que je crois que la langue française donne à eux l'image plus large du monde. Le français, quand même, pour nous, reste une chose que nous tâchons de garder, une chose précieuse. Voilà. Nous voulons, aider par cette langue, inculquer à nos élèves les traditions françaises, la civilisation française, pour élargir leur image du monde. On n'a jamais voulu rompre tout ce qui a été construit pendant des années et des années.
Un grand concours national de la langue française rassemble chaque année des centaines d'élèves à Moscou. Tous apprennent très tôt les grands auteurs de la France et certains viendront sans doute au cours de l'année rencontrer aussi quelques-uns des 36 écrivains hexagonaux invités à l'Institut français de Moscou, de Laila Slimani à Éric Reynard, en passant par Philippe Claudel ou encore Fred Vargas. Le tout parrainé par Fanny Ardant, venue cette semaine à Moscou pour dire, en toute réciprocité, son attrait indéfectible pour la littérature russe.
J'ai lu très jeune la littérature russe. Je l'ai lu sans arrêt. Ils ont longtemps été en danger. On ne sait pas encore quels seront les grands écrivains russes, comme on ne sait pas encore quels seront les grands écrivains français. Il faut du temps, puisque certains grands écrivains, 20 ans après, on ne s'en souvient plus. Donc, c'est tout ça qui est intéressant. D'aller vers ce qu'on aime et puis d'essayer de faire vivre ce qu'on aime et puis après, mektoub. Je n'aime pas faire du prosélytisme pour la lecture. On doit parler de la lecture comme de la drogue. On doit se parler entre drogués. Et on n'a pas besoin de convaincre quelqu'un qui n'aime pas lire de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire? Que c'est une industrie peut-être, mais le livre c'est quelque chose de si précieux qu'il ne faut pas forcer la porte. Ça arrivera. Comme les chiens dans la forêt. Quand les livres se fient de la politique, parce que si vous ne lisiez qu'un auteur parce que l'État a bien voulu le laisser passer, ça serait honteux. Les livres doivent se lire malgré la froideur des rapports.
Les cultures en échange plus fortes que des visions politiques souvent opposées, cette année franco-russe des langues et littérature ne se cantonnera pas au projecteur moscovite, puisque les 13 alliances françaises en Russie sont également impliquées à travers autant de festivals et de salons littéraires.
Dossier signé Claude Bruyot, notre correspondant en Russie. La météo, 7 départements restent placés en vigilance orange inondation. L'eau continue de monter dans les bassins de la Saône et de la Seine. L'Aveyron et l'Ardèche sont en vigilance orange neige verglas. Demain, le temps sera gris à peu près partout. Il y aura souvent de la pluie et d'importantes chutes de neige sont attendues sur l'est du massif central. Il fera entre 0 et 8 degrés le matin jusqu'à 12 en Corse et de 5 à 18 degrés l'après-midi du nord au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.